Voici donc votre rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité des médias francophones publics. Comme chaque semaine, nous sommes ensemble avec la Radio-Télévision Suisse, avec Radio-Canada, France Inter, RFI et la RTBF. Et on va débuter l'accent des autres au Canada cette semaine avec une question de langue, Nadi Mobarak, parce que l'unilinguisme assumé du nouveau grand patron d'Air Canada ne passe pas.
Michael Rousseau prétend n'avoir jamais eu le temps d'apprendre le français, même s'il vit au Québec depuis 14 ans, ce qui soulève un tollé.
En Suisse, à présent, un audit confirme de graves dysfonctionnements au sein du Béjart Ballet Lausanne. Son directeur ne conservera que le volet artistique, Pierre Anchoffa.
La loi du silence a été brisée. Il s'agit maintenant d'établir un contre-pouvoir au sein de la compagnie pour mieux protéger les danseurs.
En Belgique, on va parler environnement, puisque c'est la COP26 en ce moment. Les régions et le fédéral doivent encore se mettre d'accord sur une répartition des efforts pour réduire les gaz à effet de serre, Jacques Kremers.
Oui, c'est donc sans accord climatique au niveau national que le Premier ministre belge s'est présenté cette semaine à Glasgow. La Belgique qui veut multiplier par 3 d'ici 8 ans le nombre d'éoliennes offshore en mer du Nord.
Et puis faut-il parler de reprise de l'épidémie de Covid en France notamment? Depuis 2 semaines en tout cas, Karine Becker, tous les indicateurs sont à nouveau repartis à la hausse.
C'est vrai, même s'il n'est pas du tout question d'une 5e vague pour l'instant, le mot est considéré comme bien trop fort, mais il n'empêche, les enfants qui sont en primaire et qui reprennent l'école lundi vont devoir se réhabituer à étudier, masqués, vous les entendrez.
Enfin, leur naissance avait ému l'Afrique entière. Les non-nuplés maliens, 9 enfants donc, ont eu 6 mois ce jeudi, Nicolas Sûr.
Et ils vont bien. Les 9 bébés, nés à Casablanca où leur maman avait été transportée pour l'accouchement, sont toujours au Maroc avec leurs parents.
Voilà pour le programme de l'Accent des autres. Merci de nous accompagner. Le nouveau président d'Air Canada s'appelle Michael Rousseau. Il a peut-être un nom aux origines françaises, mais il est unilingue, anglophone. Et Nadi, ce patron relance probablement malgré lui un vaste débat au Canada autour de la question linguistique.
Absolument, c'est parce que Michael Rousseau a prononcé mercredi la majeure partie de son premier discours depuis son entrée en fonction en anglais devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Montréal qui est d'ailleurs le siège social de l'entreprise. Le discours en question a duré 26 minutes, mais Michael Rousseau n'a parlé dans la langue de Molière qu'une 20aine de secondes. On en écoute un extrait.
Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui.
Le dirigeant qui habite le Québec depuis 14 ans s'est fait questionner sur sa maîtrise du français. Michael Rousseau a alors affirmé qu'il a toujours pu vivre à Montréal sans parler l'autre langue officielle du pays. Il a dit aussi qu'il n'avait pas le temps d'apprendre le français parce qu'il était trop occupé à faire redécoller Air Canada alors que le transporteur se remet de la pandémie. Air Canada, qui est d'ailleurs assujetti à la loi sur les langues officielles et doit donc servir ses clients en anglais ou en français selon leurs préférences.
Mais l'affaire suscite donc un tollé et les réactions, on a dit, sont nombreuses du côté de la classe politique.
Au niveau fédéral, le ministre du patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, juge les propos du dirigeant inacceptables. C'est l'insulte à l'injure, selon lui. Le nouveau Parti démocratique et le Bloc québécois exigent carrément la démission du PDG d'Air Canada. Et puis au Québec, le premier ministre François Legault s'est dit scandalisé par l'attitude de Michael Rousseau. Il parle d'une situation insultante qui le met en colère. Le ministre québécois Simon-Jolin Barrette et la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada ont réclamé des excuses.
Et finalement, Nadi, Michael Rousseau a fait son mea culpa.
Oui, par voie de communiqué jeudi matin, le PDG d'Air Canada a présenté ses excuses. Il dit qu'il ne voulait d'aucune façon manquer de respect à l'égard des Québécois et des francophones de tout le pays. Michael Rousseau s'est aussi engagé à améliorer son français.
La culture du silence à présent dans le monde de la danse, elle se brise en Suisse, je vous le disais dans les titres, un phénomène qui touche particulièrement le Béjart Ballet Lausanne. Sa structure est entièrement revue pour réduire l'omnipotence de Gilles Roman, c'est le fils spirituel du grand chorégraphe Maurice Béjart, décédé en novembre 2007, Pierre-Anne.
Gilles Roman, qui par sa manière de diriger la compagnie depuis a généré un climat de travail tendu. Lancé en juin dernier suite à des révélations de notre rédaction, l'audit publié fin octobre parle d'injures, d'insultes, de colère, de drogue aussi. Un directeur qui ne parvient pas à gérer ses émotions. Plus de 100 collaborateurs entendus, des anciens aussi dont la parole s'est libérée plus facilement.
Et donc suite à cet audit, Gilles Roman ne sera plus seul maître à bord.
Non, mais il conserve son rôle de chorégraphe, le volet artistique donc, mais artistique seulement, comme le précise le syndic Grégoire Junot, le maire donc de la ville de Lausanne.
Il est largement reconnu comme directeur artistique et de ce point de vue-là, on lui confie cette mission-là, mais il est effectivement encadré dans la nouvelle structure par un directeur général, par des structures RH. En fait, ce qui manque au Ballet Béjart, on n'a pas de contre-pouvoir au sein de la structure. C'est-à-dire que quand vous avez un souci de personnel, il n'y a pas de lieu où le faire remonter. Et ce qui est grave dans cette affaire, c'est qu'on a quand même un directeur de production qui pratiquait du harcèlement sexuel, c'est avéré par l'audit et ça n'a pas été détecté. Et ça, c'est ce que nous souhaitons corriger.
Ce directeur de production a lui été licencié, comme l'avait été avant lui le directeur et la régisseuse de l'école rue de Rabéjar liée au ballet, est fermée depuis. C'est là que la crise avait éclaté ce printemps.
Le Béjart Ballet Lausanne peut donc, Pierre-Henri, repartir sur de nouvelles bases ?
C'est un peu tôt pour le dire, le programme des représentations est maintenu, mais tout va dépendre de l'attitude de Gilles Roman. Acceptera-t-il ce directeur général au-dessus de lui ? Son départ fâché lundi lors d'une réunion avec les danseurs entretient le doute, d'autant qu'il leur a dit n'accepter ni les conclusions de l'audit, ni les mesures prises. Pour le conseil de fondation, Gilles Roman prend un peu de repos pour réfléchir à la redéfinition de son poste.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
En Belgique, à présent, le Premier ministre a présenté les projets de son pays pour réduire les émissions de CO2. C'était en début de semaine en Écosse, à l'occasion de la COP26. Le Premier ministre De Croo a notamment insisté, Jacques, sur les investissements dans les éoliennes en mer du Nord.
Nous investissons pour rester l'un des leaders mondiaux dans la production d'énergie éolienne offshore, a précisé Alexander De Croo, car en effet, la Belgique est le cinquième producteur d'énergie éolienne au monde, avec seulement 65 km de côte, mais avec déjà 400 éoliennes implantées à 50 km au large du littoral. La Belgique produit actuellement l'équivalent de la consommation de plus de 2 millions de ménages. Cela représente 10% de la consommation électrique nationale et le gouvernement en veut davantage puisqu'il ambitionne de multiplier par 3 le nombre d'éoliennes offshore d'ici 8 ans.
Voilà, le vent, évidemment, vous l'avez compris, crucial, important dans la stratégie belge. Et en parlant de vent, il y en a eu pas mal aussi dans les discussions politiques cette fois, Jacques, parce que c'est aussi sans accord entre les régions, que le Premier ministre belge s'est présenté à Glasgow.
Oui, et cette difficulté, voire cette incapacité de la Belgique à trouver un accord climatique au niveau national, entre fédéral et région, lui a déjà valu de recevoir le prix Fossil, décerné par un réseau d'ONG environnementales, un bonnet d'âne décerné en 2014 et en 2015, qui n'a manifestement pas servi de leçon, puisque c'est sans accord climat finalisé que le Premier ministre belge s'est rendu mardi à Glasgow. D'ici 2030, la Belgique doit réduire de 47% ses gaz à effet de serre par rapport à 1990. C'est l'objectif défini au niveau européen, mais c'est précisément la question de la répartition de ces réductions entre les trois régions et le fédéral qui constitue le point d'achoppement. Il reste une semaine pour parvenir à un accord national. C'est encore possible la semaine prochaine, a déclaré jeudi le ministre wallon du climat qui préside la Commission nationale du climat, comme quoi rien n'est simple.
Oui, et on notera tout de même que le gouvernement flamand s'est mis d'accord sur ses propres engagements climatiques en cette fin de semaine. Reste donc à s'accorder entre le fédéral et les régions sur les efforts à fournir. Des efforts, il en faudra encore pour venir à bout du Covid. L'épidémie repart à la hausse en France notamment, plus 10% par semaine avec plus de 6000 cas à la faveur de l'automne et de la fraîcheur. Les deux tiers du pays dépassent le taux d'incidence de 50 pour 100 000 habitants. Conséquence, le masque sera à nouveau obligatoire à partir de ce lundi dans les écoles primaires de 39 départements supplémentaires. On va à ce propos partir dans le Tarn, en Occitanie, où cette annonce gâche manifestement la fin des vacances. C'est un reportage de Sandrine Morin pour France Inter.
C'est vrai que depuis 2 semaines et demie, le Tarn était au-dessus du seuil épidémique. Alors Eric s'est un peu préparé et en a déjà parlé à son fils de 9 ans.
Bon, il n'est pas forcément réticent à ça, donc On n'est pas confiné, on n'est pas enfermé, on n'est pas. Donc ça va. Si c'est que ça pour l'instant, on verra et puis on verra par la suite.
Après les vacances enfin sans Covid, il va falloir remettre le sujet sur la table. Et Virginie n'est pas pressée du tout d'en parler à ses trois enfants en primaire.
Je pense qu'ils vont être très déçus de devoir remettre le masque. Pour eux, c'était un meilleur contact avec leurs camarades, avec leur maîtresse et. C'était une libération pour eux et j'espère aussi que c'est pas un signe que l'épidémie repart et que ce sera pas que le masque mais d'autres choses aussi quoi.
Et elle ne s'est pas trompée, Arthur, 10 ans, tombe de haut.
Non, je suis vraiment pas content. Et on respire mieux sans les masques. Je suis très déçue parce qu'on était bien sans le masque.
Alors il y a aussi des parents tellement en colère qu'ils songent à des mesures radicales.
Ça suffit quoi, il y en a marre, franchement, ils savent pas quoi faire. C'est pas que les masques, c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Non, moi je suis préparée à faire sortir mon fils de l'école et je me battrai coûte que coûte pour le faire sortir si jamais. Je trouve que les choses prennent un sens déraisonné quoi.
Une décision qui ne change rien pour les enseignants qui avaient continué de porter le masque.
Sandrine Morin donc pour France Inter et côté Suisse. À présent, Piran, c'est encore et toujours la question de la vaccination qui préoccupe les autorités.
Si on exclut les enfants de moins de 12 ans qui n'ont pas accès au vaccin, le taux de personnes vaccinées peine toujours à dépasser les 75%. C'est trop faible pour contenir le coronavirus. Les chiffres des contaminations repartent d'ailleurs à la hausse. C'est pourquoi, dans une offensive peut-être un brin désespérée, Confédération et Canton lancent dès lundi une semaine de la vaccination avec action sur le terrain et concert à la clé. Le gouvernement s'est bien gardé de fixer un objectif chiffré en termes de nouvelles piqûres.
On va terminer cette semaine avec les suites d'une naissance multiple. Ça avait été une première mondiale en mai dernier, des nonuplés maliens. 9 bébés donc, issus d'une seule et même grossesse, étaient nés grands prématurés, on l'imagine, nés par césarienne. Mais ils vont bien après 6 mois, Nicolas.
Oui, ils sont toujours à Casablanca, au Maroc, où leur maman, originaire de Tombouctou, avait été transférée avant l'accouchement. Les bébés résident aujourd'hui dans un appartement médicalisé avec leurs parents, Abdelkader Harbi et Halima Cissé. Des parents, on le comprend, bien occupés, comme ils l'ont raconté à Amélie Tullet.
Ça demande beaucoup, beaucoup d'attention. Ils peuvent se réveiller tous ensemble, toujours veiller, toujours être là au besoin. Nous sommes là dans l'appartement tellement occupé, les heures et les jours passent très, très vite. Il faut le dire.
Il y a d'autres qui pleurent, d'autres ne pleurent pas, d'autres veulent seulement qu'on leur parte, d'autres veulent tout le temps les biberons restent. Les enfants dorment, si on se repose, le temps qu'ils se réveillent.
Le couple est épaulé par un jeune frère du papa et une sœur de la maman. Il peut aussi compter sur 2 infirmières le jour, 2 autres la nuit. Le pédiatre de la clinique où les enfants sont nés passe aussi régulièrement. Mi-octobre, la ministre malienne de la Santé est venue voir toute la famille à Casablanca pour évaluer la situation, mais aucune date pour le retour au Mali n'a encore été fixée. En attendant, le père prévoit bientôt un voyage en solo à Tombouctou pour retrouver la fille aînée du couple. Elle n'a pas encore 3 ans et n'a pas vu sa maman depuis bientôt 8 mois.
Nicolas Sûr pour RFI, voilà qui va refermer l'action des autres. Merci à tous. C'était l'actualité des médias francophones publics avec Radio-Canada, France Inter, RFI, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Excellente fin de semaine à vous et à la semaine prochaine.